J'ai vu qu'il me téléphonait tous les jours, qu'on déjeunait tous les mois. Je crois que j'ai déjeuné qu'une seule fois avec lui, qui est la fois, en effet, où on lui a proposé de rejoindre CNews. Donc voilà, sur Zemmour, franchement, Éric Zemmour a le droit de s'exprimer, il fait ce qu'il veut. Je veux dire, moi je veux bien être le père d'Éric Zemmour, putatif, comme vous me le présentez, mais enfin quand même. Une fois que j'ai dit que j'assumais d'être paratonnerre, j'assume d'être paratonnerre. Je redis, il y a tellement de courants de pensée dans nos livres, dans nos émissions. Moi, voilà, personne ne pensait, personne ne savait qu'il allait être président de la République.
En réalité, il ne l'est pas encore, président de la République. Mais Vincent Bolloré prend ses désirs pour des réalités. Le voici auditionné, comme 8 autres milliardaires, par une commission sénatoriale qui s'est quasi ridiculisée. Elle est supposée faire toute la lumière sur la concentration des médias, la façon dont l'information est contrôlée par des puissants qui défendent leurs intérêts. Mais les sénateurs, si mal préparés, se font complètement balader. Deux journalistes ont décidé de marquer le coup avec un film qui va sortir en salle et qui documente les coulisses de la presse et de la télévision. Les pressions que subissent les journalistes, justement, dont les enquêtes dérangent les grandes fortunes françaises et ces révélations que des mains invisibles font tout pour étouffer. Évidemment, le risque de tomber dans la paranoïa et le complotisme est ici très grand, d'où cette question cruciale de nos jours. Comment alerter sur les entraves à la liberté d'informer sans alimenter l'idée dangereuse que la vérité est ailleurs et que tous les médias nous mentent.
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Et on n'aura probablement pas assez de 20 minutes pour en parler. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Sonia.
Valentine Auberti, quotidien pendant 3 ans, Mediapart, vous animez notamment à l'air libre, le talk show, je vous avais reçu pour que nous en parlions ici. À vos côtés, Luc Herrmann. Bonjour,
bonjour
Luc. Vous dirigez Première Ligne TV, vous êtes producteur de Cache Investigation, de Vert de Rage, ces enquêtes sur les écocides qui sont diffusées sur France 5 et d'un tas d'enquêtes diffusées en prime time sur Arte. À tous les deux, je vous la pose frontalement, cette question qui m'a hantée au visionnage. Comment on alerte sur les pressions, sur les entraves à la liberté d'informer, à la liberté d'enquêter, sans tomber dans la paranoïa, dans le complotisme, dans la conspiration généralisée. Hein. Je reprends les premiers mots de votre doc. Il y a ce que vous voyez, il y a ce que certains souhaitent que vous voyez, il y a ce que vous ne voyez pas. Luc Herrmann, non, Valentine Auberti.
On apporte des faits. En fait, ce documentaire, c'est un peu une boîte noire de l'information et du journaliste. On raconte comment on produit de l'information, ce qui entrave cette information, et ce qui aussi, parfois, résiste pour que cela sorte. Il y a aussi de l'espoir dans ce documentaire, puisqu'on voit bien qu'il y a des informations qui sortent, notamment sur le service public. Mais comme on n'annonce pas les trains qui arrivent à l'heure, on raconte ce qui fait qu'aujourd'hui, le citoyen est parfois mal informé. Je ne crois pas qu'on dise qu'il y a une main invisible. En tout cas, ce n'est pas du tout l'intention de ce documentaire.
Luc Herrmann.
Et justement, les mains invisibles, on les nomme. On a beaucoup travaillé avec toutes les équipes de Mediapart chez Première Ligne à convaincre des journalistes de raconter des pressions, de raconter des autocensures. Malheureusement, il y a des autocensures dans certains médias et des censures directes. Et donc non, justement, on nomme les mains, ces mains invisibles. Une démocratie en bonne santé est une démocratie bien informée. Et effectivement, les journalistes peuvent par moment avoir de défiance de la part des citoyens sur « Oh là là, comme vous le disiez en ouverture, on nous ment. » Ben non, on peut bien s'informer, mais c'est difficile de bien s'informer. Et là, dans un contexte de campagne électorale extrêmement complexe et d'hyper-concentration, on n'a jamais vu ça en France, d'hyper-concentration de très nombreux médias privés aux mains de très grands industriels, nous, on a senti que c'était le moment, comme d'autres journalistes en ce moment, comme vous le faites vous-même ici dans ce studio, c'est de donner la parole à des journalistes entravés qui n'arrivent pas à travailler, qui racontent leur pression et de raconter ces coulisses étranges de certaines informations qui ne sortent pas. Et quand on est mal informé,
d'autant que les
mauvais citoyens.
Pressions et les entraves ne prennent pas toujours la forme qu'on imagine. Je prends l'exemple du Monde. Le Monde qui a publié un article mettant frontalement en cause des agissements de Vincent Bolloré en Afrique où il domine de très nombreux marchés. Or, Vincent Bolloré contrôle pas Le Monde du tout, mais le deuxième groupe de publicité française, Havas, et il donne l'ordre à ses équipes de priver de publicité Le Monde. Or, Le Monde a encore besoin de publicité pour vivre. Vous interrogez Louis Dreyfus, qui est le patron du groupe Le Monde.
Globalement, il y a eu un manque à gagner de l'ordre de 5 millions d'euros par an, de 5 à 6 millions d'euros par an, pendant 2 ans. Et on a compris qu'il y avait une politique assez systématique d'exclusion des supports du groupe Le Monde, à tel point que notre seule façon de revenir dans les plans était d'appeler l'annonceur en disant « Vous êtes une grande banque, vous êtes un grand annonceur de luxe, regardez, c'est curieux, vous faites une campagne nationale, mais il manque Le Monde. » Et de bonne foi, l'annonceur nous disait « Écoutez, effectivement, ça me semble bizarre, vous avez raison, on va rajouter des pages. »
Quelques mois après, sort dans Le Monde une vaste enquête sur le rail, le développement du rail en Afrique et la conquête de l'Ouest. On y parle beaucoup de Vincent Bolloré. Vous y avez vu, d'autres y ont vu, une volonté de se réconcilier avec Vincent Bolloré, de se racheter ses bonnes grâces pour récupérer la publicité manquante.
Bah, disons que la journaliste qui avait produit l'enquête, qui avait mis en colère Vincent Bolloré et conduit à la suppression de la pub, s'est étonnée, c'est ce qu'elle raconte dans le documentaire, que l'article qu'elle proposait sur le rail au Niger n'ait pas été choisi, alors même qu'il y avait une grande série là-dessus, et elle a trouvé, elle a considéré que ce qui avait été raconté dans le journal était un peu trop à la gloire de Vincent Bolloré. La question avait été posée à Serge Michel, le rédacteur en chef du Monde Afrique à l'époque, qui s'en était expliqué et qui nous a redit sa position, tout comme d'ailleurs Louis Dreyfus.
Il démente.
C'est pourtant pas ce que pense cette journaliste et d'autres qu'on a pu interroger au cours de notre enquête en off.
Mais c'est, moi, en fait, la question que je me pose, c'est quand vous présentez cette affaire, on reste sur le démenti de Louis Dreyfus, on reste sur le démenti du rédacteur en chef du Monde. Et les spectateurs qui vont vivre, parce que le film sort dans 50 salles en France, c'est beaucoup quand même, ils vont sortir de la salle de cinéma et ils vont se dire, donc Le Monde se couche devant Bolloré? Donc Le Monde se couche devant les puissants. Je vous dis ça parce que Le Monde a publié au mois de décembre une enquête assassine sur les réseaux de Bolloré et ses liens avec l'Algérie française, l'extrême droite, les intégristes catholiques.
Des portraits l'été dernier de ses grands
mais
patrons en succession.
Mais sans trembler manifestement.
Sans trembler, en effet. Non, ce qui est troublant, et c'est ce qu'on montre dans le documentaire, c'est que ce rattrapage, il est totalement démenti par les équipes du Monde. Il est malgré tout troublant lorsqu'une journaliste sur le terrain en Afrique nous explique qu'elle aurait bien souhaité participer à cette... Elle est pigiste, hein, mais qu'elle aurait bien souhaité participer à cette série sur le rail pour justement raconter des dysfonctionnements graves de trains qui avaient déraillé en Afrique. Et malheureusement, on n'a pas pris son enquête.
Ça, j'entends bien.
Là où vous avez raison, il faut faire très attention. Mais malgré tout, ce sont deux faits très importants. 12 millions de manques à gagner pour un grand quotidien, la somme est considérable. Ouais. Besoin, c'est vraiment beaucoup.
Peut-être heureusement
beaucoup
qu'ils avaient un actionnaire assez riche pour avoir les reins.
Heureusement. En l'occurrence, oui, effectivement, ils ont un actionnaire assez solide pour pouvoir continuer à enquêter.
Qui s'appelle Xavier Niel et qui fait partie des milliardaires dont vous dénoncez la mainmise sur les médias. Mais ce que je voudrais qu'on explique ici, c'est que derrière, le Monde sort 6, 8, 10 enquêtes et importantes par an. Et même vous, Luc Herman, vous collaborez avec eux au sein d'un grand consortium d'investigation à Washington. Et ensemble, vous avez sorti des grandes enquêtes sur les évasions fiscales qui ont, alors là, pour le coup, vraiment sali le nom de plusieurs puissants. Donc ce qui m'embête, c'est qu'on laisse penser que... Voilà, le Monde se couche quand on lui supprime de la pub Valentina Berberti.
On laisse pas penser que le Monde se couche quand on lui supprime de la pub. Vous savez, Le Monde n'est pas un journal monolithique. Les médias ne sont pas faits d'un bloc. C'est pas on dit rien ou on dit tout. La censure ou l'autocensure se niche dans des détails, se niche un peu partout. C'est-à-dire que vous pouvez bien évidemment faire des séries d'été passionnantes sur les milliardaires. Bon, on aimerait bien lire celle sur Xavier Niel. Je le dis un petit peu en plaisantant. Mais il peut y avoir des séries, des enquêtes, etc. Et puis à d'autres moments, parce que des personnes à un moment, un rédacteur en chef ici, un journaliste là, a eu peut-être que la suppression de la pub pendant un an et demi au journal Le Monde a infusé dans les esprits, inconsciemment ou consciemment, et a pu produire une forme d'autocensure. C'est pas tout ne se fait pas d'un bloc. C'est pas à un moment on révèle tout, puis après on fait rien du tout.
Alors il y a une partie passionnante, c'est tout ce que vous raconte Tristan Valex, qui est aujourd'hui le patron de Complément d'enquête. À différents moments de sa carrière, ça fait très longtemps qu'il est à la rédaction de France 2, très longtemps qu'il fait de l'investigation. Il a lui aussi enquêté sur Bolloré pour un doc dont on a énormément parlé. Il y avait aussi une partie qui se déroulait en Afrique. Il faut savoir qu'il a été multi-harcelé, multi-attaqué en justice et que France Télévisions a gagné tous les procès contre Bolloré. Mais enfin, vous sortez un moment intéressant, vous sortez une discussion entre Vincent Bolloré et Ramzi Kirun, qui est le bras droit de Arnaud Lagardère. Ils sont au téléphone, ils sont sur écoute. Voilà ce qui se passe avant la diffusion du doc.
Est-ce que tu m'autorises à donner ton numéro de portable à Stéphane Sidbon, dans le plus grand secret, hein, qui est le directeur de cabinet de Delphine Arnault?
D'accord.
tu lui dis exactement ce que tu penses pouvoir être gênant dans ce qui se prépare, pour qu'il puisse agir de façon efficace. Il va voir ce qu'il peut faire. C'est un chouette gars, tu vas voir.
Non, mais c'est adorable, mais écoute, d'abord, je sais pas ce qui me gêne, moi j'en sais rien, tu vois. Ils vont répéter indéfiniment les mêmes trucs, l'Afrique machin, de Greenpeace, des...
Y'a rien de faux dans tout ça ?
Ah mais tout ça est complètement vrai. C'est même au-dessous de la réalité.
C'est leur vraie voix ou elles sont
rejouées? Non, ce sont des voix qui ont été rejouées par notre équipe, par des journalistes. En revanche, on a les réels procès-verbaux de cette écoute. C'est le téléphone de Vincent Bolloré qui est sur écoute à ce moment-là.
Voilà, depuis on s'est mis en ordre de marche à France Télévisions. On aimerait bien savoir comment justement ces gens-là qui sont extérieurs à la rédaction ont pu voir ce documentaire. À un autre moment, Tristan Valex vous raconte comment Bernard Arnault, un autre milliardaire, fait pression sur lui parce que manifestement Bernard Arnault a horreur qu'on s'occupe de ses affaires et qu'on aille fouiller. Tristan Valex et ses équipes sont en Roumanie. Ils aimeraient bien enquêter sur le Made in France des souliers produits par les belles marques de Bernard Arnault.
Chez nous, on fait absolument tout. C'est nous qui mettons la fermeture, la doublure. C'est même nous qui plaçons les petites étiquettes Vuitton.
C'est alors qu'en plein tournage, son rédacteur en chef l'appelle.
J'ai Benoît Duquesne, le patron de mon émission à l'époque, qui m'explique qu'il a eu Nicolas Bazire, vice-président de LVMH à l'époque, qui est très en colère et qui a des preuves, vidéos et photos, montrant qu'on a proposé des liasses de billets à des ouvrières pour leur acheter des témoignages et des faux témoignages. C'était évidemment complètement faux.
Voilà, évidemment, les deux séquences sont absolument hallucinante, Valentine Auberti.
Oui, et puis ce qui est hallucinant là-dedans, c'est que ce soit Vincent Bolloré ou Bernard Arnault, aucun des deux n'est propriétaire de France Télévisions ou de
non,
France 2.
Justement, c'est un média public.
Voilà, c'est un média public et qui ne leur appartient pas, et ils réussissent quand même, pour l'un, à connaître, parce que c'est ça la suite de la conversation, connaître le contenu du complément d'enquête qui lui est consacré avant sa diffusion. Donc ça, c'est pour Vincent Bolloré. Et l'autre se permet, Bernard Arnault, de menacer Tristan Valex. C'est la suite de l'échange, de représailles, c'est pas très clair, ce sont des menaces parce qu'il aurait visiblement été à Bordeaux pour une histoire d'extorsion de fonds dont personne n'a toujours pas compris de quoi il s'agissait.
C'est un coup monté de A à Z.
Ça ressemble à ça, oui. Ça ressemble fort à ça. Et donc ce sont des médias qu'ils ne possèdent pas, mais ils essaient quand même d'en influencer le contenu, oui, ou de faire pression pour que ce qui les dérange, en l'occurrence la situation fiscale en Belgique, Bernard Arnault, les souliers Made in Italy, en réalité Made in Roumanie, mais c'est jamais écrit, ne sortent pas.
Oui, Luc Herman.
Je pense vraiment que ça va beaucoup intéresser le grand public. Tristan Valex est un journaliste très courageux, ouais, protégé par sa rédaction, mais malgré tout, on a rarement entendu, ça fait un petit moment qu'on fait ce type d'enquête, rarement entendu des pressions aussi dures, autant de mensonges contre un journaliste pour tenter de le déstabiliser, ouais, à l'époque Benoît Duquesne, qui dirigeait complément d'enquête. Et il faut vraiment saluer le travail du service public et la direction de
mais
France 2.
Mais qu'est-ce que je suis contente de vous l'entendre dire.
Ils ont diffusé. L'enquête sur Vincent Bolloré remporte le prix Albert Londres, pas une minute de changer avant sa diffusion. L'enquête sur Bernard Arnault démontre que oui, il payait bien à un moment des impôts en Belgique et que c'était très complexe sur sa fiscalité. Oui, France 2, et en l'occurrence c'était France 3 à l'époque, a diffusé une enquête censurée par Canal+, sur le Crédit Mutuel, réalisée par Jean-Pierre Canet, Nicolas Vescovici, que vous avez reçu.
Et
le service public l'a diffusé. Voilà.
Et le service public ne s'est pas caché, ne s'est pas couché, pardon, et le Tristan Valex, on l'a pas mis dans un placard, on l'a nommé patron de la tranche.
Et il présente aujourd'hui.
Et ça cartonne.
Et ça cartonne.
C'est pour ça que je vous dis, comment faire la différence entre le discours de sites qui s'auto-intitulent sites de réinformation? Comment ceux qui proclament aujourd'hui leur indépendance, Valeurs Actuelles, qui dit nous sommes indépendants et qui vous traite en adversaire, vous, Mediapart, et souvent le service public, d'ailleurs, nous tous. Comment faire la différence entre le discours de TV Liberté, de Livre Noir? Comment faire le discours entre ces médias qui disent on vous mente? Parce que justement, il y a des conflits d'intérêts, il y a des mains visibles, il y a des pressions. Nous, on vous dit la vérité.
Moi, j'ai pas beaucoup de solutions à part les faits. Nous, ce qu'on apporte dans ce documentaire, ce sont des faits. Je ne sais pas comment faire pour ceux qui ont envie de se sentir confirmés dans ce qu'ils pensent, d'avoir des biais de confirmation. Nous, on apporte des faits et c'est la seule chose qu'on sait faire parce qu'on est journaliste, tout simplement.
Et dans l'équipe, on a une petite formule. C'est une formule, mais on parle de malbouffe. Il y a aussi de la malinformation. Ouais. Et cette malbouffe crée des problèmes d'obésité, crée des problèmes de santé importants, crée du diabète de type 2 chez les enfants. Une mauvaise information peut créer de sérieux sérieux problème.
Valentine Aubertier, après on va parler de votre cas à vous justement, parce que vous racontez un cas de censure.
Ce qu'on essaie de raconter, c'est le cheminement de cette opinion qui devient, qui est au même niveau que les faits. Dans le documentaire, on montre que Renaud Camus, grand théoricien du grand remplacement qui a pu inspirer des tueries, est invité sur CNews juste pour qu'on l'écoute. Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle qui a quitté les Républicains parce que le parti virait trop à droite il y a 2 ans, on est aujourd'hui la candidate et parle à la tribune de son meeting de grand remplacement.
Absolument.
Voilà. Pour moi, on est arrivé au cheminement et à ce que peut produire cette espèce de règne de l'opinion. Et là, on n'est même plus dans l'opinion, on est dans une espèce de fake news qui n'a aucune base factuelle.
Alors, et qui est meurtrière.
Alors, vous avez été, on le sait, journaliste à Quotidien, donc on se souvient bien de votre visage sur le plateau. Vous étiez là pendant 3 ans. Vous avez beaucoup soulevé dans l'émission la question, c'est-à-dire est-ce que l'État français vend des armes à l'Arabie Saoudite et est-ce que l'État l'Arabie Saoudite s'en sert pour pilonner le Yémen, où je rappelle qu'il y a eu une guerre absolument atroce et une situation humanitaire sans précédent, tellement elle est grave. Vous procurez une note secrète, confidentielle, explosive, Valentine Auberti, et vous essayez, puisqu'elle vous refuse une interview, d'attraper, façon Élise Lucet, d'attraper Florence Parly, ministre, à un salon de l'innovation des armes. Voilà ce que c'est.
Sur le Yémen, puisque c'est votre question, j'ai eu l'occasion de m'exprimer il y a encore peu de temps auprès de l'un de vos confrères. J'ai eu l'occasion de dire qu'il me semblait indispensable que cette horrible guerre s'arrête.
Dans ce document, il y a des armes françaises pour lesquelles il n'y a aucune information, Madame la Ministre, sur leur destination. Madame la Ministre, sur le point de situation, il y a des armes françaises dont vous n'avez aucune information sur leur utilisation au Yémen.
Ces images n'ont jamais été diffusées, Valentine Auberti. Qu'est-ce qui s'est passé après le tournage ?
Le ministère de la Défense nous a écrit un mail nous demandant de restituer le document, nous rappelant qu'on était passible de 50 prisons et 75 000 euros d'amende pour compromission du secret de la Défense nationale. Puis il y a eu des convocations à la DGSI, ça a été le cas aussi des camarades journalistes de Disclose.
Qui ont repris l'enquête.
Et puis,
Disclose étant un média indépendant. À but non lucratif, qui s'est spécialisé dans l'investigation.
Dans l'investigation et dont la première enquête était les ventes d'armes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc une enquête de justice. Là, cette séquence, elle raconte comment des pressions étatiques, celles de l'exécutif, peuvent dissuader de sortir des informations d'intérêt général. Vous l'avez rappelé, la guerre au Yémen, situation humanitaire catastrophique, et sujet sur lequel l'exécutif était très régulièrement interrogé à ce moment-là. Donc, ça aboutit à une enquête préliminaire, donc qui est un moment non contradictoire dans la justice, un classement sans suite, mais un rappel à la loi, un joli courrier du procureur qui vous dit « Bon, les faits étaient caractérisés, vous avez bien compromis le secret de la Défense nationale, mais on arrête là les poursuites. Par contre, petit rappel à la loi. Un rappel à la loi, c'est 6 ans, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête, pendant laquelle, 6 ans pendant lesquels on ne peut plus manipuler, utiliser, travailler sur du document confidentiel défense. »
Et vous dites, Bangoumi, la maison de production qui produit Quotidien, a préféré enterrer l'enquête.
En tout cas, moi je constate qu'il y avait une enquête, il y avait une séquence, il y avait des documents, et que l'enquête n'a pas pu sortir. Bangoumi donne sa version et estime qu'il n'y a pas eu de censure.
Non, Bangoumi dit, il y a une séquence choc, façon Élise Lucet, on attrape la ministre et tout, mais derrière il n'y avait pas vraiment d'enquête, et il aurait fallu faire d'abord une enquête et ensuite la séquence choc, et les choses ne sont pas passées dans le bon ordre, donc on a arrêté là, si j'ai bien compris, c'est ça ?
C'est ça. Mais ce qui est intéressant dans cette enquête, ce n'est pas tellement l'opposition avec Bangoumi, c'est pas ça qui compte dans cette séquence. Ce qui compte dans cette séquence, c'est la pression étatique qui fonctionne.
C'est important quand même, puisque vous parlez de censure, voire d'autocensure. C'est quand même tout ce que dénonce ce documentaire. C'est les cas de censure et les cas d'autocensure. Donc là, vous parlez d'une maison de production qui préfère enterrer l'enquête, qui néanmoins vous fait revenir sur le plateau. On s'en souvient tous très bien. Vous étiez enceinte jusqu'aux yeux, ça m'avait frappé. Au moment où vos camarades, vos confrères de Disclose sont convoqués à la DGSE, on vous fait revenir sur le plateau, vous expliquez que vous aussi, vous avez été menacé et que vous aussi, vous avez été convoqué. Donc, c'est ça que j'aimerais bien comprendre. Il y a eu censure, il n'y a pas eu censure.
Je sais pas, vous avez vu le documentaire ?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, dites-nous vous.
Moi, j'estime, je sais pas, cette séquence, parce que ce qui suit dans la séquence, ce sont la suite des pressions. C'est le conseiller diplomatique qui cherche à voir le document, c'est l'officier de liaison du ministère.
Ah non, les pressions du ministère, donc, on a bien compris.
En fait, la séquence, pour moi, elle parle d'elle-même. En fait, c'est une séquence qui démontre la panique au plus haut sommet de l'État et qui, je trouve, mérite d'être diffusé et qui me paraît être totalement d'intérêt général.
Et est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec le fait que Bangoumi vend ses programmes à TF1, enfin au groupe TF1, et que le TF1 appartient aux Bouygues et que les Bouygues avaient un intérêt là-dedans, puisque
absolument pas dans notre enquête, absolument pas, et on en doute Totalement. Ce qui est important, la raison pour laquelle on ressort ce document aujourd'hui, qui peut potentiellement remettre Valentine en difficulté, c'est voilà, c'est 6 ans d'omerta sur ce type de document capital, un document
alors,
capital.
Alors, demain soir, en avant-première, pour les abonnés à Mediapart, vous pouvez voir Mediacrash sur le site de Mediapart, et ensuite c'est dans 50 salles en France. Allez-y, puisque il va y avoir des débats avec tout un tas de journalistes.
C'était
et je pense
l'idée,
que, à mon avis,
pour débattre
c'est le débat qui est hyper important.